Vous êtes sur le podcast Vivre, le podcast qui vous inspire et vous aide à faire grandir votre richesse intérieure. Au micro, c'est Leïla, fondatrice de la Mindful Academy, et je suis très heureuse de vous accompagner sur ce chemin. Dans cet épisode, nous allons parler de la zone de génie. Pourquoi c'est important de comprendre ce qu'est la zone de génie? Une fois qu'on a compris ce que c'est, eh bien, comment identifier et comment la développer pour qu'elle soit au service de notre vie? L'intention de cet épisode, c'est vraiment de comprendre comment mettre sa zone de génie au service de notre vie, puisque nous sommes sur le podcast Vivre. Et en disant ça, j'introduis limite le pourquoi en parler. C'est un concept que j'ai découvert il y a plusieurs années, que j'ai investigué, que j'appliquais de temps à autre. Mais plus mes journées deviennent complexes, chargées, et plus mes responsabilités grandissent, plus je sens le besoin de revenir à cette notion-là. Alors pour ceux qui me connaissent, et pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps, vous savez que maintenant j'ai 2 enfants. En bas âge, je précise. L'une a bientôt 3 ans et l'autre déjà 5 mois. J'ai repris le travail et malheureusement, eh bien, je ne peux pas tout faire. Oui, comme tous les parents, je suis confrontée à ce tiraillement entre bien faire son travail professionnel et être présent pour ses enfants. Passer du temps de qualité et les voir grandir. Mais voilà, cette équation est vraiment pas simple. Alors ce que j'essaye de faire, c'est de trouver ou au moins chercher des leviers qui vont me permettre de mieux vivre cette situation. Des leviers qui vont faire que lorsque je me lève le matin, eh bien j'ai la patate, j'ai le sourire. Des leviers qui vont faire que lorsque je joue avec mes enfants, eh bien je ne pense qu'à ça et je prends du plaisir à ça. Et pour l'anecdote, juste hier, j'avais un excès de fatigue et une larme a coulé devant ma fille. Et elle m'a dit « Mais maman, pourquoi tu pleures ?» À quoi j'ai répondu « Parce que je suis triste. Cela m'arrive aussi de temps à autre d'être triste. » Et elle me répond « Et quand on danse ensemble et que tu rigoles, tu es contente ?» J'ai dit oui. Alors elle m'a donné un de ses nounours et m'a pris dans ses bras et j'ai trouvé ça hyper mignon. Parce que c'est vraiment vrai. Lorsque je suis avec elle, que je danse avec elle, que je joue avec elle, eh bien je suis vraiment joyeuse. Parce que ma tête est aussi là. Je prends du plaisir lors de ces moments. Même si je sais que pendant le reste du temps, eh bien il y a des moments dans ma journée où ça peut être un peu difficile. Voire très difficile. Et comme tous les êtres humains, eh bien ça m'arrive de flancher aussi. Je continue à apprendre, je continue à grandir, je continue à m'adapter. Et la zone de génie dont je vais vous parler dans cet épisode est un des leviers que j'aime beaucoup activer. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Il y a un proverbe qui m'avait beaucoup touchée. Je ne me rappelle plus de qui l'avait dit. Je l'ai recherché sur Internet, mais je pense que la manière dont je l'ai écrite n'est pas tout à fait ça, parce que je ne le retrouve pas. Mais ça va certainement résonner. Vous avez peut-être dû le voir passer quelque part. Et ce proverbe dit que l'on n'est pas fatigué parce qu'on fait trop de choses, mais qu'on est peut-être fatigué parce qu'on ne fait pas assez des choses qu'on aime. Et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai observé, je regardais dans mes journées, en les analysant, les journées où je me sentais le plus fatiguée. Et je me suis rendu compte que ce sont des journées où les tâches que je faisais étaient des corvées. Comparé à d'autres journées où je faisais des choses qui m'animaient, même si c'était le même volume de travail, en termes d'heures travaillées, en termes d'heures d'activité, quand j'ai travaillé, hein, c'est pas uniquement professionnel, c'est le fait d'être actif. Ce que je considère aussi toutes les autres activités comme le fait d'être actif. Donc dans une journée où j'ai le même taux d'activité, il y a des journées où je suis exténuée et d'autres journées où je la patate. Et je me suis demandé pourquoi. Parce que le premier réflexe qu'on peut avoir dans ces situations, c'est de se dire « Je suis fatiguée, eh bien je dois me reposer. Peut-être dormir ou me distraire avec la télévision ou peu importe. » Et il est très important de se reposer, je ne dis pas le contraire. C'est surtout pas moi qui va vous dire de dormir moins. Je tiens mes 8 heures de sommeil quand je le peux. Mais alors, c'est quoi cette histoire d'animation au sein de son activité? La clé de la zone de génie, c'est d'être à la croisée entre nos compétences et ce qui nous fait plaisir. Il y a des choses dans lesquelles nous sommes naturellement bons. C'est presque un don. Et lorsque nous exerçons les activités dans lesquelles nous sommes naturellement bons, alors nous avons plus d'impact. C'est comme un effet de levier en fait. Au lieu de passer 8 heures ou 16 heures à faire quelque chose dans laquelle on galère, on passera peut-être une heure à faire quelque chose qu'une autre personne aurait galéré à faire. C'est en quelque sorte optimiser ses ressources et les positionner au bon endroit. Mais cela n'est pas suffisant. C'est pour ça que je parle de croisement entre compétences et ce qui nous anime, ce qui nous passionne peut-être. Parce que pendant l'activité, eh bien nous ne sommes pas drainés par cette activité. Au contraire, cela nous apporte de l'énergie. Pour ceux qui connaissent déjà l'ikigai ou qui ont écouté l'épisode que j'avais fait sur l'ikigai, pour celles et ceux qui souhaiteraient l'écouter, c'est l'épisode 47. Mais la manière dont j'interprète la zone de génie, c'est pour moi comme un ikigai simplifié où on retire deux axes. Donc on ne garde que deux axes sur quatre qui sont la passion et la compétence. Et à mon sens, c'est déjà un bon début pour explorer son ikigai. Mais ce qui se passe lorsque nous sommes compétents et que nous sommes animés, eh bien cela fait que nous avons un effet de levier. Donc nous faisons des choses qui vont nous prendre moins de temps et moins d'énergie que les autres et qui vont, à contrario, eh bien nous rapporter de l'énergie dans notre journée. À titre d'exemple, pour celles et ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, par exemple Instagram, vous avez certainement remarqué que je suis très peu active sur Instagram, que mon premier canal de communication est le podcast. Et c'est un choix délibéré, parce que je me suis rendu compte que moi, personnellement, le podcast m'enrichit. Lorsque j'enregistre un podcast, j'ai l'impression que j'apporte de la valeur lorsque j'entends vos feedbacks. Et d'ailleurs, merci beaucoup. Continuez à me laisser de grands cœurs et de très beaux commentaires, ça me fait chaud au cœur. Je sens aussi que j'ai de l'impact parce que j'ai des retours de personnes qui se sont transformées rien qu'en écoutant mon podcast et qui ont limite l'impression de me connaître, qui me disent « Léla, ça fait plus de 2 ans que j'écoute ton podcast, il m'accompagne dans ma vie, je me reconnais vraiment dans ce que tu décris, les leviers que tu utilises dans ta vie, j'ai commencé à les utiliser aussi et ça m'aide à dépasser mes peurs, à passer à l'action, à réorganiser ma vie, à prendre du recul, à mieux gérer mon stress, mes émotions. C'est ça l'impact en fait que je veux. C'est ce que je recherche. Donc il y a l'impact que ça apporte, il y a le plaisir que je prends à enregistrer ces épisodes, et l'énergie que cela me procure, et il y a aussi le temps que j'y consacre. Je vous avoue que j'avais commencé à un certain moment à être assez active sur Instagram pendant quelques mois, mais je me suis rendu compte que cela m'a drainée en termes d'énergie. Alors j'ai arrêté. Et je trouve que c'est ok. C'est peut-être pas ce qu'il faut pour moi à ce moment, à ce stade de la vie, et je ne vais pas me forcer à faire des actions qui me draineront. Parce que je sais que de toute façon, si je le fais en allant au contraire de mes capacités, de mon énergie, eh bien j'irai droit au mur. Alors je me concentre sur le podcast, sur l'impact que ça a, sur le plaisir que j'ai de partager avec vous des moments de qualité, que vous soyez en train de marcher, que vous soyez sur la route, que vous souhaitez juste vous reposer et avoir quelque chose dans votre oreille. Eh bien j'adore ça. Donc je continue à le faire. Je suis un peu moins régulière qu'avant, le temps de trouver mon rythme, mais c'est ok. Cela me rapporte de la satisfaction personnelle. Cela est réalisé de manière efficace. Je suis motivée à le faire et ça me permet de transmettre mon message et de vous accompagner et vous soutenir dans votre vie. Et c'est ça, finalement, l'avantage de travailler dans sa zone de génie. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça implique, comme ce que je vous ai expliqué avec mon exemple, qu'il faut prendre du recul, observer les actions qu'on fait au quotidien, observer lesquelles nous animent, lesquelles sur lesquelles on est bon aussi, et étudier comment arrêter ou déléguer les autres tâches, ou peut-être aussi les automatiser. C'est en tout cas l'approche que j'ai prise. Et c'est en quelque sorte une approche pragmatique du lâcher-prise. Ne pas chercher à tout faire parfaitement. Choisir ses batailles, choisir ses activités. Et ce n'est pas simple, parce que nous avons des habitudes, et que cela va venir bousculer nos habitudes. Et que parfois nous avons l'impression que personne ne va mieux savoir faire une tâche que nous. Nous tenons à certaines tâches qui auraient pu être déléguées ou automatisées simplement par peur de perdre le contrôle. Or, c'est faux. Si je laisse par exemple mon mari habiller ma fille et l'emmener à l'école le matin alors que c'est quelque chose que je faisais tout le temps moi, même si elle ne met pas les habits que j'aurais voulu moi, même si elle n'ira pas à l'heure exacte à laquelle je l'aurais déposée, eh bien tout ira bien. Elle va être habillée pour l'école et elle va aller à l'école. Et cela ne m'empêche pas du tout de jouer avec elle avant qu'elle y aille. Sans pour autant avoir cette charge mentale de me dire, eh bien qu'est-ce qu'elle va mettre, de lui courir derrière, parce que je peux vous dire qu'à 3 ans ça court bien le matin, et d'être dans la contrainte de temps parce que je suis pressée. Cela me permet de commencer ma journée avec moins de stress, sans que cela détériore notre relation. Au contraire, je lui explique que parfois c'est maman et d'autres fois c'est papa. Et que si je ne la dépose pas le matin, eh bien, j'irai la chercher en fin de journée et on ira faire des activités ensemble. Et ce que cela souligne, c'est la nécessité de s'entourer, de demander de l'aide et d'accepter aussi que les choses ne soient pas faites exactement comme on l'aurait fait nous. Un autre exemple est celui des tâches ménagères. On ne va pas dire que je sois la plus douée là-dedans. Et peu importe où on vit, si nous sommes bons dans ce que nous faisons dans notre zone de génie et que cela nous permet d'avoir un revenu confortable, nous pouvons nous permettre de déléguer certaines tâches ménagères. C'est quelque chose que je faisais en France à raison de quelques heures par semaine et que je fais toujours aujourd'hui avec plus de volume. Et ça me soulage. Mais cette délégation ne peut être soulagée que lorsque nous nous contentons de donner de grandes orientations et qu'en face nous avons une personne qui est dans sa zone de génie aussi, donc qui est contente de faire ce travail-là et qui le fait très bien. Autrement, c'est une charge qui risque de nous revenir. Et cela s'applique aussi au monde professionnel. Lorsque nous gérons des équipes, il est très important de connaître les zones de génie des uns et des autres pour déléguer efficacement et réduire les itérations. La réalité, c'est que c'est un outil extraordinaire de management. Certaines anciennes écoles vont souhaiter à ce que chaque employé puisse cocher toutes les cases, c'est-à-dire que chaque personne soit bonne en analyse quantitative, en analyse qualitative, en communication écrite et orale, en recherche de l'information, en créativité, en structuration, en problem solving, et qu'il fallait, eh bien, vérifier que chaque personne est là au moins un certain niveau dans toutes ses compétences. Et qu'il fallait justement, au lieu de peaufiner et de viser l'excellence dans la compétence ou les 2-3 compétences clés de ce collaborateur où il est déjà bon, aller plutôt le former sur là où il n'est pas bon. Cette approche est complètement contraire à tout ce que je pratique. Lorsque je fais des formations pour les entreprises, eh bien je fais tout l'inverse. Parce que c'est à la fois plus simple, plus agréable et plus impactant de travailler ce pourquoi nous sommes naturellement bons. Bien sûr, il y a certaines bases à avoir dans toutes les autres compétences pour pouvoir s'intégrer dans une entreprise, mais je pense que le curseur du minimum requis devrait être inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. Néanmoins, le curseur de l'excellence devrait être placé au-delà de ce qu'il est aujourd'hui sur les compétences clés des collaborateurs. Il faudrait passer d'une vision de compétences et d'harmonie des compétences vers une vision d'excellence et de complémentarité entre les profils. Je ne vais pas rentrer en détail dans ce sujet, ce n'est pas l'objet de notre épisode, mais c'est juste pour vous donner une illustration de l'usage de cette zone de génie, à la fois sur le plan personnel et professionnel. Je sens que je vais avoir des petits retours de messages des RH qui vont peut-être pas être d'accord avec moi sur ce point et je suis très très ouverte à mener cette discussion. Mais alors, très bien, maintenant qu'on a compris ce qu'est la zone de génie, pourquoi c'est utile? Je ne vais pas vous laisser sans vous dire comment la travailler. La première chose est de l'identifier. Comment l'identifier? C'est en regardant bien toutes les actions de votre journée. Vous pouvez les noter sur une feuille, un cahier, peu importe. Et bien sûr, on va revenir à la pleine conscience, la base de tout, la connaissance de vos émotions, de votre stress. J'y retourne à chaque fois parce que c'est la base. Donc il faut avoir un certain recul pour observer les actions de la journée, observer celles qui vous a animé, celle qui vous pensez vous a drainé, dans le sens comment vous vous sentez durant cette expérience-là, durant cette action-là, celle où vous avez senti que vous avez de l'impact ou pas, et puis vous pouvez faire une petite matrice avec deux axes, un axe énergie et un axe impact. Votre zone de génie se situera au croisement, au impact et gain d'énergie. Ou si vous voulez, peu de drainage d'énergie. À partir de cela, pour mettre justement cette zone de génie au service de votre vie, l'idée est de continuer à développer ses compétences, donc se concentrer sur les compétences nécessaires pour réaliser ces actions, où vous avez un impact fort et où vous avez une animation en vous en réalisant ces actions-là. Donc vous concentrez sur ça et vous les développez davantage pour atteindre l'excellence. Pour le reste, vous pouvez soit automatiser ces actions, soit les abandonner, soit collaborer avec d'autres personnes qui ont ces compétences complémentaires. Donc travailler avec des personnes pour lesquelles ces actions rentrent parfaitement dans leur zone de génie. Et si vous observez ceux qui, pour vous, incarnent la réussite, vous allez certainement rendre compte qu'ils sont connus ou que vous les appréciez pour certaines compétences, pas pour tout le reste. Alors concentrez-vous sur ce qui vous fait vibrer et là où vous êtes déjà bon pour améliorer à la fois votre impact et votre vie. Et vous n'êtes pas obligé de connaître tout de suite quelle est votre zone de génie. C'est un travail où vous pouvez choisir d'être accompagné pour y arriver. Mais déjà, le fait d'en prendre connaissance et de commencer à explorer est un très bon début dans votre cheminement. C'est la fin de notre épisode. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Il y a des boutons de partage sur Spotify. Et je pense aussi sur Google Podcast. Donc vous pouvez partager directement l'épisode en question par WhatsApp, par mail, par ce que vous voulez, si vous pensez que ce contenu peut aider quelqu'un dans ce cheminement. N'oubliez pas de me laisser un rating 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, Spotify ou Apple Podcast. Et pour ma part, je vous dis à très très vite pour un nouvel épisode du podcast Vivre. Prenez soin de vous.